Philadelphie et les Chargers de Los Angeles.
Merci beaucoup, David Chabot, chroniqueur international, est en studio. Salut, David.
Salut, salut.
Passez un beau week-end.
Oui, à travailler devant mon laptop.
C'est vrai?
Les joies de faire rentrer un triangle dans un sac, dans un carré avant le temps des fêtes.
Est-ce que ça a fonctionné?
En bonne partie. Mettons, il manque encore des choses pour ce matin.
Est-ce que tu peux mettre des heures de côté chez ton employeur quand tu fais de l'overtime la fin de semaine?
Hey, je pense que j'aurais déjà pris ma retraite.
Quand j'avais fini ma carrière chez Ronald McDonald, je pense qu'il me devait comme 3 mois et demi de vacances. Tu sais, de temps accumulé, là, que je m'étais entendu avec le gérant de la place. Pendant 3 mois et demi, j'ai été payé. Parce que j'avais accumulé trop d'heures.
Ouais.
Et je devais avoir 16-17 ouais. ans à l'époque.
Même chose pour moi chez Copy Express dans le temps.
Ouais.
J'avais quoi, 18-19. Puis quand j'ai travaillé chez Bell aussi, quand j'ai terminé avant d'aller au RTC,
ouais.
j'ai pu prendre pratiquement un mois et demi de vacances avant de rentrer au RTC.
C'est le fun.
En raison
ça.
Des heures accumulées. Mais c'est sûr que dans la période de déménagement chez Bell, tu sais, je travaillais du 90, 100, 120 heures semaine.
Non, c'est un bel avantage, c'est sûr. Je suis pas certain si la vraie norme, ça serait d'avoir du temps.
La légalité est pas là, là.
C'est ça. Du temps accumulé, je suis pas certain, là, mais bon.
Mais quand tu peux t'organiser avec ton employeur, c'est le fun.
Mais quand t'es rendu à les prendre, t'es content.
Ben, c'est ça.
Exact. Fait que tu peux-tu faire ça avec ton employeur ou pas?
Ben non, mais non, mais non. J'ai une certaine liberté là, dans les semaines où c'est plus relax, je peux m'organiser à la mode, prendre des vacances quand ça me tente. Mais quand on a besoin de faire rentrer les gros dossiers. Le laptop il s'ouvre un dimanche après-midi pendant une game où les Chiefs se font massacrer.
Massacrer, hein? Ouais, ça n'a pas été une bonne game pour eux autres. David Chabot, on parle de guerre aujourd'hui. Un accord de paix en Ukraine serait proche selon Washington. De l'autre côté, on reproche à Zelensky de ne pas avoir lu l'accord de paix. On en est rendu où dans ce dossier-là?
Ben, en fait, c'est drôle parce qu'on a l'impression d'un progrès, mais en réalité, le vrai joueur qui ne parle pas encore, c'est la Russie. Puis on n'a toujours pas ça, le feeling. La seule chose qu'on a eu récemment comme feedback des discussions, c'est de dire « Écoute, il y a encore des gros morceaux importants à faire tomber, donc on est loin d'une résolution. » De l'autre côté, tu as Donald Trump qui dit « Non, 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 mais on est sur le bord de clamer le deal en question. » Donc, la vérité, elle est où? Je trouve que la Russie est dans une position extrêmement favorable pour ce deal-là. Ils font juste attendre d'avoir des propositions, puis ils ont le choix de dire oui ou non. Ce matin, Zelensky est à Londres pour parler avec les représentants de UK, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne puis de la France pour essayer de trouver une façon de trouver des passages pour que. Mais tu sais, en fait, la réalité dans cette situation-là, c'est que Zelensky s'ostine avec l'Europe, l'Europe s'ostine avec les États-Unis, les États-Unis s'ostinent avec Zelensky, puis pendant ce temps-là, ben, t'as Poutine qui se tape ses cuisses puis qui trouve ça drôle.
Mais il semblerait que Poutine a accepté cet accord-là, là, parce que, selon Trump, parce que Trump dit « Écoutez, ça convient à la Russie, vous savez ce que je pense de la Russie, la Russie préférerait avoir tout le pays en entier, mais je suis pas sûr que ça convienne à Zelensky ». Ça semble bien plaire à Vladimir Poutine, ce plan-là.
Bien, en fait, c'est ce que Trump dit, mais Poutine lui-même ne l'a jamais dit. Puis les représentants du Kremlin, qu'ils soient on the record ou bien off the record, disent tout, on est loin d'un deal. Puis pendant ce temps-là, ben, la Russie avance lentement, mais avance quand même en Ukraine. Donc là, moi, j'ai l'impression, mon feeling, c'est que Poutine joue la position classique de dire, ben, à chaque jour qui passe, oui, j'ai des gars qui meurent sur la ligne de front, mais ça me dérange pas tant, puis j'améliore ma condition. Donc là, pourquoi je signerais un deal de paix alors qu'à chaque jour, j'ai un peu plus d'avantages que j'avais?
C'est on est à la troisième semaine qu'on discute de ce fameux plan américain-là. Ça finit plus.
Non, et d'autant plus que du côté des Russes, il n'y a pas de consensus américain, Europe, donc le champ est vraiment libre comme il n'a jamais été en Ukraine.
Absolument. Puis dans le fond, les gros points là, d'achoppement dans tout ça, de ce que j'en comprends, c'est pas tant une question de territoire. Je pense que Zelensky serait prêt à laisser aller que certaines provinces, en partie ou en entier, pour avoir une paix qui est, de un des points importants, c'est la garantie de sécurité qui n'est pas vraiment claire en ce moment. La Russie dit « Ouais, ouais, signe le deal, puis tu vois, ça va bien aller. » Comme ils ont dit « Donne-moi tes armes nucléaires, puis ça va bien aller dans les années 90. » Donc là, les garanties de sécurité sont très, très importantes là-dedans. Le point de joindre l'OTAN aussi est très, très problématique parce que, évidemment, l'Ukraine en rêve. L'Europe serait d'accord, les États-Unis pas tant que ça, puis la Russie, over my dead body, ils veulent pas ça pantout. Donc là, ça aussi, c'est un point d'achoppement vraiment important. Puis il y a beaucoup de choses quand même plus locales, plus j'ai le goût de dire ethnique, là, reconnaître la russe comme la langue comme une langue officielle du pays, ce qui n'est pas le cas en ce moment, introduire l'église orthodoxe russe, dans le fond, en Ukraine. Donc, tu sais, clairement, la stratégie, c'est de dire on va amener l'influence culturelle russe en Ukraine pour que...
On va assimiler tranquillement. Là. On exact. A pris du territoire, puis après ça, on va se mettre à assimiler la population. Poutine qui dit « si l'Europe veut faire la guerre, je suis prêt ». Il est prêt ou il est pas prêt?
Bien, sincèrement, il a bien beau le light, mais il sera pas capable. Là. Je veux dire, encore une fois, c'est toujours le même point. On se ramène à l'arme nucléaire, mais si on fait une guerre conventionnelle, Europe-Russie, oubliez les États-Unis, là, juste l'Europe et la Russie.
On manque de bottes directement sur le terrain du côté de la Russie.
Ah ben, à un moment donné, ils peuvent mobiliser des millions de personnes. C'est juste que là, t'envoies qui sur le front, tu sais, dans le sens que là, ils ont de la misère à gagner en Ukraine. Puis on en a parlé amplement, là, un pays qui est, oui, ingénieux, qui est capable de se débrouiller, sauf que c'est pas une force militaire incroyable. Amène toute la quincaillerie de l'OTAN puis juste de l'Europe. Des pays qui sont capables d'avoir une force de frappe incroyable, ça sera pas une vraie guerre, là. Ça durera pas longtemps pour vrai, mais il y a toujours l'arme nucléaire. Donc là, lui, Poutine, dans le fond, il sait que son seul levier, c'est ça, puis c'est pour ça que des pays comme la Corée du Nord, par exemple, essaient à tout prix, là, ils l'ont maintenant, là, mais d'avoir l'arme nucléaire, l'Iran, la même chose, parce que tu gagnes un levier stratégique qui est incomparable. À partir du moment où il y a du nucléaire dans la discussion, que tu ailles 8 gars habillés en babouche avec un AK-47, t'as quand même une armée qu'il faut que tu respectes. Donc là, je pense pas non que Poutine est prêt à se pogner avec l'Europe, encore moins avec les États-Unis. Là.
OK. Autre sujet, le Canada qui va acheter des milliers de bombes et des missiles aux Américains. On parle d'un presque 4 milliards de dollars canadiens. Ce qu'on veut, c'est armer justement un pays qui est membre de l'OTAN.
Écoute, il y a quelques trucs là-dedans. Là. Premièrement, on a une capacité limitée au Canada de produire, mettons, des obus, des bombes, des missiles, tout ça. Là. On est capable d'en faire quand même un peu, mais pas tant que ça. Puis en ce moment, nous, on en a envoyé beaucoup en Ukraine. Donc là, il faut quand même regarnir la garde-manger, on va dire, militaire.
Mais étant allié de l'OTAN, on est-tu obligé de s'armer comme ça parce qu'on est allié?
Bien, là, c'est l'autre volet. T'sais. C'est tout le point du 2% de dépenses, 5% de dépenses avec l'OTAN puis tout ça. Je pense que c'est un move très, très stratégique de Carney. Dans une situation où ce que beaucoup lui reprochent de dire d'un côté, « Ah, on va trouver des alternatives aux États-Unis puis essayer de découpler nos économies. » Puis de l'autre côté, hey, « on va aller courir acheter des bombes aux États-Unis. » Bien, c'est un petit peu la stratégie souffler le chaud et le froid. Là. Ça fait notre affaire d'aller acheter cet armement-là à un endroit où il y en a probablement à meilleur prix qu'ailleurs. Puis évidemment, il y a une proximité en termes de logistique puis tout ça. Mais je pense pas que c'est phénoménal comme move, mais je pense que c'est assez stratégique de dire « Regarde, mon beau Donald, là, tu vois, là, on est des bons alliés, là, on achète des bombes chez vous, puis nous, on va s'armer dans le futur, tu vas voir, crois-moi, puis regarde, j'ai déjà dépensé un 4 milliards là, pour te faire plaisir, là, fait que regarde, rouvre la discussion sur le trade régulier et conventionnel.
Hey, 3414 bombes Blue 111 qui payent chacune 225 kilos. 3100 bombes GBU-39 qui sont destinées à frapper avec précision des cibles fixes et des ogives pénétrantes.
Ouais, c'est les fameux Bunker Buster. Là.
Ouais.
C'est pas une mauvaise chose qu'on a ça au Canada parce qu'on l'avait pas. On est assez dégarni quand même sur les armes spécialisées. Donc, tu sais, je pense que les gars, les filles en uniforme sont compétents. Ils ont beaucoup d'entraînement, j'essaie de dire en français, du cross-training, je sais pas comment on pourrait traduire ça, là, mais de l'entraînement multifacette, mettons. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est pas parce que t'es chauffeur de truck que tu fais juste chauffer des trucks. T'apprends plein d'affaires, puis aux États-Unis, ils sont beaucoup unidirectionnels dans ce sujet-là. Donc, en termes de compétences, on est bon. En termes d'armement, puis d'équipement, puis de spécialisation, on vaut pas deux cents.
Non, ben, c'est ça, on est pourri. Je fais une petite parenthèse économique à ça, parce que Mark Carney n'arrête pas de nous vendre son plan d'armement comme étant un plan économique pour le Canada où on va développer notre propre économie à l'interne. Mais là, les sous-marins vont être fabriqués en Allemagne, les bombes, on les achète aux États-Unis. Ça va-tu vraiment créer ce ressac-là économique, la stratégie militaire du Canada?
Bien, c'est une excellente question. Là. D'un côté, tu sais, la dévie, par exemple, là, ça va grandir rapidement. Là. Ouais. Il y a des milliers de travailleurs qui vont travailler là. Donc là, on va faire des brise-glace. Ils sont déjà capables de le faire. Mais je trouve que ça serait dangereux de commencer à dire on va faire des sous-marins qu'on n'a jamais fait. Parce qu'évidemment, à un moment donné, il faut partir quelque part.
Puis tu sais, on s'entend, là, c'est de l'équipement militaire, donc c'est de l'équipement pour nous protéger ou aller à la guerre. Fait que ça peut pas être boboche. Là.
Non, ben c'est ça. Surtout un sous-marin, mettons, il faudrait que ça soit pas pire que le caulking soit bien fait pour pas que ça coule. Mais sans farce, Tu sais, quand tu te lances dans une aventure comme ça de sur-spécialisation, tu peux toujours engager des gens qui ont la spécialité. Tu peux toujours aller à l'international pour l'expertise de planification, par exemple, puis construire ici. Mais c'est très risqué. Puis, tu sais, on fait bien des blagues avec, mettons, Nordvolt ou des choses comme ça. On voit comment c'est risqué de partir de zéro des industries majeures, massives. Acheter des sous-marins, c'est des milliards et des milliards. Mm-hmm. Tu ne donnes pas ça à n'importe qui. Donc là, je prends l'exemple du sous-marin, mais c'est vrai pour bien des choses. Tu sais, les tanks, par exemple, on achète des Léopards en Allemagne parce qu'ils font ça depuis 1939, hein, des tanks.
Ouais.
Fait que, ils savent comment ça marche.
Ah oui, pourquoi donc?
Ben, je sais pas. Il y a eu un moment où ils se sont très spécialisés là-dedans.
C'est ça. Ouais, c'est très peu connu dans l'histoire.
Ouais, hein?
Ouais, à ce moment-là, le PDG de l'entreprise, il y avait une petite moustache.
Ouais, 39-45, je pense, dans ces années-là.
Une affaire comme ça, là.
Ouais, c'est ça. Donc là, ça fait bien quand même d'acheter cette expertise-là, d'ailleurs, pour certains volets. Mais je suis d'accord que de se développer, par exemple, justement, les brise-glaces polaires à la DV, ce que je connais assez bien le dossier pour ce que vous savez, là, mais cette expertise-là, on va la développer à l'international. Puis il n'y a pas 40 000 pays qui ont besoin de ça. Là. On se comprend qu'en Thaïlande, les brise-glaces, il y en a moins. Là. Mais quand même, pour les pays nordiques, puis aussi pour le sud-sud-sud de l'Amérique du Sud, là, ben, ça peut être très, très utile aussi. Là.
All right, on se dirige dans une autre guerre, celle-ci entre Israël puis le Hamas. Les dirigeants d'Israël ont dit que la nouvelle ligne de débarcation, c'était la bande de Gaza. Est-ce que ça t'a surpris, cette citation-là?
Ben, en fait, c'est la ligne jaune, okay? Parce qu'il faut comprendre que le plan de paix américain prévoyait 4 lignes différentes. Il y avait la bleue, qui était vraiment le cessez-le-feu. Donc là, c'est où les forces étaient stationnées à ce moment-là. La deuxième ligne, c'est la jaune. C'est celle-là qu'on parle ce matin. Donc là, ça, oui, c'est très surprenant parce que l'entente, ça a toujours été de dire on va reculer à la ligne jaune, là, qui est grosso modo là, 50% du territoire de la bande de Gaza. Le temps de désarmer le Hamas puis de dire qu'on va mettre en poste un gouvernement palestinien qui est, oui, politique, mais non militant, donc non violent. Donc là, ça, c'est le gros morceau dans la résolution du conflit là, Israël puis la Palestine parce que le Hamas, il n'y a personne qui est convaincu de ça, là, qui vont déposer les armes puis laisser le contrôle à quelqu'un d'autre. Eux disent qu'ils sont prêts à le faire s'il y a un leader palestinien réputé, si on veut, ou en tout cas de confiance qui prend le leadership. C'est qui ces gens-là? On le sait pas encore. Comme on en avait déjà parlé, le Fatah est une alternative un peu plus pacifiste pour gérer la bande de Gaza ou à la Palestine en général. Mais le Fatah et le Hamas, ça veut se tuer. Là. Donc ça n'arrivera jamais.
Mais ça prend absolument une organisation avec une base religieuse.
Ben, le Hamas va vouloir ça, clairement. La communauté internationale veut pas ça. Ou en tout cas, n'a pas affirmé directement qu'il voulait pas ça, mais clairement, on veut un gouvernement plus démocratique ou en tout cas, au moins qui est basé sur des fondements laïcs. Là. Donc là, est-ce que ça va arriver? Ça, j'en doute beaucoup. Donc ça, c'est la ligne jaune qui est en ce moment. Puis là, ben, dans le futur, il va y avoir la ligne rouge. Une fois que le Hamas va désarmer, là, on va être en situation de stabilisation. Donc là, c'est là qu'on ouvre la porte à avoir une force de stabilisation internationale, les États-Unis, l'ONU, puis etc. Puis à la fin du plan, là, il y a vraiment une zone tampon entre Israël et la Palestine qui s'implanterait. La Palestine deviendrait un pays reconnu avec la fameuse solution à deux États. Donc là, en ce moment, ce qui se passe, ça fait partie du plan qui a été annoncé, mais c'est vraiment, vraiment important comme moment, parce que est-ce qu'on va être capable de désarmer le Hamas? Puis est-ce que Israël va accepter aussi de libérer du terrain par la suite si jamais ces conditions-là sont remplies? Parce que c'est un petit peu la même chose qu'avec l'Ukraine puis la Russie. T'sais, la Russie dit « Garde, donnez-moi telle affaire, puis... » Tu vas avoir la paix plus tard, puis finalement, personne ne croit ça. Mais c'est un petit peu la même chose avec Israël en ce moment. Personne ne croit vraiment qu'ils vont abandonner du territoire conquis juste pour les grands principes de pacifisme.
Puis c'est un peu weird, là, la façon dont je vais t'amener ça, mais une fois que la guerre sera finie entre Israël et le Hamas, là, puis que, bon, il y aura un accord de paix qui sera peut-être signé, qu'on aura déterminé que, bon, la Palestine devient un pays, puis qu'on aura mis un gouvernement en place, est-ce qu'on va traquer les tueurs?
Ben, là,
on continue de les traquer jusqu'au dernier pour les anéantir?
Dans les conditions actuelles du cessez-le-feu, il y avait une amnistie pour les membres du Hamas. Donc là, ceux qui ont fait le 7 octobre, est-ce qu'il existe encore? J'en doute. Là, d'après moi, le ménage a été fait assez clairement, mais mettons qu'il en restait. Ils peuvent lever la main et dire « Regarde, moi, je suis du Hamas, mais je deviens pacifiste et je rends les armes. » Puis là, encore une fois, on y croit-tu, on y croit pas? Est-ce que le Mossad va prendre cette liste-là puis ça va devenir une liste d'épicerie dans 12 ans?
Ouais.
Comme ils sont capables de le faire.
Tout le monde peut tomber d'une galerie après tout?
Ben écoute, se faire défenestrer arrive si rapidement.
Il y a quand même un énorme risque pour les Américains dans les négociations avec les Russes qui se passent à l'heure actuelle. T'sais, si Israël gagne du terrain sur la bande de Gaza, Ben, je suis Vladimir Poutine. J'ai regardé, votre allié fait comme nous. Les États-Unis attaquent présentement le Venezuela. Ben, regarde, nous autres, on attaque l'Ukraine. T'sais. Là, ça vient de réclater Cambodge, Thaïlande. Un conflit que Donald Trump était censé avoir réglé. Donc, il y a beaucoup de feux ouverts aux États-Unis qui donnent, je trouve, une légitimité aux Russes dans leurs négociations du plan de paix.
Absolument. C'est tout des vases communicants. Puis c'est une des choses que j'ai toujours dit, que se retirer de la diplomatie internationale puis d'abandonner ses grands principes pour faire seulement que du transactionnel, c'est dangereux parce qu'une situation va t'avantager, l'autre va te désavantager, mais c'est les mêmes principes. Les États-Unis ont sorti vendredi un document vraiment important qui est la stratégie nationale de sécurité américaine. Puis là-dedans, on a un paquet d'affaires, là, mais grosso modo, c'est des grands principes de gouvernance pour la géopolitique, puis comment ils vont se positionner par rapport aux enjeux globaux là, pour la sécurité. Donc là, un document de 33 pages qui est facilement trouvable sur Google. Puis les grands principes de ça, là, c'est de dire qu'ils vont remettre de l'ordre dans l'Amérique du Sud, qu'ils vont arrêter l'immigration de masse. Ils donnent une claque à la gueule directement, pas en arrière de la tête, à l'Europe en leur disant qu'ils ont été laxistes puis qu'ils ont vraiment perdu le contrôle de leur identité. Puis c'est drôle parce que ça ressemble beaucoup à un débat qu'on a au Québec avec Boc-Côté, tu sais. Puis il y a un réalignement non démocratique mais très transactionnel pour l'économie américaine, puis une réindustrialisation. Donc là, je vous donne les grandes lignes comme ça, là, on pourra en parler longtemps, mais ce plan-là positionne officiellement par un document, ce qu'on sait de Trump depuis plusieurs mois, là. Mais ça a un impact sur ce que tu dis, parce que une fois que tu mets ça public sur papier, là, ben là, tout le monde peut lire ça et dire « OK, toi, tu te positionnes comme ça, c'est ça l'objectif d'une stratégie.
Ouais. »
Cette nouvelle stratégie-là laisse beaucoup de place à la Chine et à la Russie pour faire ce qu'ils veulent un peu dans le monde, parce que Trump dit « Moi, c'est pas de mes affaires. » Puis il y a aussi beaucoup les pays arabes là, du Moyen-Orient qui ont des fois des politiques un peu discutables. Moi, je m'en fous. Tant qu'on fait de la belle business, faites ce que vous voulez. Grosso modo, c'est ce qu'il leur dit. Fait qu'on revient en Ukraine, on en revient en Israël. Les gars disent « Ben là, moi, je peux bien faire de la business avec toi si tu veux, mais laisse-moi faire mes affaires, tu sais. » Puis là, t'as plus de levier vraiment. Mais en même temps, de l'autre côté, t'as gagné le prix de la FIFA parce que t'es le grand pacifiste, puis tu veux aller faire des deals de paix pour collectionner ça comme les Pokémon. T'es pas dans une bonne position, je trouve, là.
Non, c'est ça. Puis ça laisse vraiment, justement, de la place à des régimes communistes comme la Russie et la Chine de gagner du territoire. Après ça, que les territoires qui ont gagné, de faire la transaction avec les États-Unis. « Hey, gars, on va se partager ressources, on va rebâtir ça, ce territoire-là, puis let's go, on est parti. » Mais c'est très, très, très dangereux. Là, parce que moi, je regarde depuis 2-3 ans, la Chine, le regard qu'elle a sur Taïwan... Et elle fait juste attendre de voir comment ça va se régler Russie-Ukraine pour dire « je vais-tu ou je vais pas ».
Tout le monde se pose la question « qu'est-ce que les États-Unis vont faire si la Chine envahit l'Ukraine ?»
Taïwan.
Taïwan, ouais. Ouais. La question est très, très pertinente.
On aura peut-être un prochain sujet à ce niveau-là dans les prochaines semaines. David Chabot, c'est toujours un plaisir. On se reparle lundi prochain, cher ami.
Yes, merci les boys.
All salut, mon chum.
Nous autres, on s'arrête 9h18. Si vous avez des choses à nous dire, c'est le 88 971 1021. C'est par messagerie texte.
Marceau le matin.